Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour le quart d'heure mensuel de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir et recevons aujourd'hui Marie-Francine Jourdan. Bonjour Marie-Francine Jourdan.
Bonjour à tous.
Chers auditeurs, c'est à l'occasion de la sortie de son nouveau livre de pierre et de verre, Les saints du pays chartrain, que nous avons sollicité Marie-Francine Jourdan en cette année où notre association a choisi de découvrir les saints du diocèse. Marie-Francine Jourdan, votre livre se présente en trois parties parce qu'il y a trois temps dans la manifestation des saints dans le diocèse. Le temps des martyrs, le temps des fondateurs et le temps d'une sainteté difficile dans le deuxième millénaire.
La sainteté est en effet un phénomène central de la culture médiévale et qui ne cesse, on va le voir, d'évoluer au fil du temps et qu'on va aborder de manière chronologique. Alors au départ, en dehors de la Vierge, des apôtres et de Jean-Baptiste, les saints vénérés au 1er siècle sont les martyrs. Martyr veut dire témoin. Sa sainteté est aussitôt reconnue par l'Église locale. Les honneurs sont rendus par l'ensemble de la communauté chrétienne, les proches et sous l'appellation martyr. L'approbation du culte, on le voit, n'est pas actée par une intervention hiérarchique. On connaît l'expression « vox populi, vox dei ». Dans le martyr aussi, c'est important, le corps tient une importance centrale. Le martyr imite le Christ et souffre avec lui. Et c'est cette importance centrale du corps maîtrisé qui permet de comprendre que lui soit attribué, après la mort, un pouvoir spécifique. Alors, quand les persécutions s'apaisent, la conception de la sainteté va s'élargir à partir d'une réflexion sur le martyr. Et on se pose la question, comment aller à Dieu sans verser son sang? Alors les pères de l'Église vont répondre qu'il existe un substitut au martyr, l'ascèse. Et on reconnaissait aussi depuis longtemps le courage de ces grands prélats qui avaient souffert aussi pour leur foi en prison, en déportation, ou qui avaient lutté avec courage et constance contre les hérétiques, les schismatiques, ou ceux tout simplement qui avaient assumé sans défaillance des responsabilités en période de persécution. Leur confession de foi était le point commun avec les martyrs. Alors dès lors, le terme confesseur se voit attribué à tous ceux qui méritent d'être honorés en fonction de la vigueur de leur foi, des peines subies ou tout simplement des peines qui se sont infligées. Donc, avec les ascètes, les confesseurs, un type nouveau de sainteté vient d'être reconnu. Et les figures de proue, eh bien, on les connaît, c'est saint Antoine, l'ascète et saint Martin. Le sanctuaire du saint va devenir rapidement un but de pèlerinage. Les reliques sont dispersées dans de multiples sanctuaires. Le culte des saints prend effectivement son essor entre la fin du IVe siècle et le VIIIe siècle. Le saint devient vite un personnage puissant et il peut guérir les malades, capable d'intercession auprès de Dieu. On va invoquer sa protection. Suit une période, la période mérovingienne, et qu'on va appeler l'âge d'or de la sainteté locale. Après la chute de l'Empire romain, le caractère local de la sainteté s'accentue et apparaît comme le reflet d'une réalité historique. Les églises locales n'hésitent pas à porter sur l'autel les évêques, les défenseurs de la cité ou ceux qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, dans le diocèse, on connaît bien Lubin qui délimite le diocèse, Béthère qui aurait défendu la ville contre les Burgondes. Parallèlement, les abbayes font la promotion de leurs fondateurs ou des membres qui ont laissé un souvenir marquant. Alors on a Chéron à l'abbaye Saint-Chéron, Lomère à celle de Corbion, Saint-Avit. Il s'ensuit en fait une prolifération anarchique des cultes et on voit certains monastères qui vont devenir de véritables pépinières de saints dont les clercs rédigent les vies. Et c'est le cas par exemple à Missy près d'Orléans. Alors, porter à l'autel un défunt relève encore de l'église locale ou de la communauté monastique. Et on voit que le martyr de sang a, à cette période-là, remplacé par celui de la pénitence et des pratiques des vertus. Et c'est la grande période, on l'a dit tout à l'heure, des saints locaux.
Alors que fait l'Église en réponse à cette prolifération, vous employez le terme anarchique, quoi, presque anarchique, des saints locaux?
Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Alors bien sûr, il va y avoir un contrôle. Et ce contrôle, il se fait en deux temps. Le contrôle épiscopal dans un premier temps et le contrôle pontifical un petit peu plus tard. Alors, et dès la fin du 8e siècle, on voit le renforcement de ce contrôle épiscopal sur l'accès à la sanctification. Des capitulaires vont interdire la vénération de nouvelles reliques et la translation va devenir un acte liturgique important.
Je vous interromps, qu'est-ce que la translation, Marie-Francine Jourdan ?
Alors, la translation, elle correspond à une exhumation des reliques et leur transfert vers une sépulture plus digne. C'est aussi, et c'est ce que ça devient à cette période-là, une sorte de procès d'authentification des vertus du personnage, qui relève désormais d'une assemblée d'évêques. Ce n'est plus l'assemblée locale qui le fait. Hein. Et elle va confirmer officiellement et définitivement l'élection à la sainteté du personnage. Et cette autorisation de culte est célébrée avec faste. Parallèlement, on voit aussi une évolution du culte des saints, parce que c'est au IXe siècle que la fête solennelle de la Toussaint qu'on connaît encore est fixée au 1er novembre. On va voir apparaître l'importance du pape. Et tout le monde connaît Grégoire VII, qui est l'initiateur de la réforme grégorienne, et avec lui, l'autorité pontificale commence à s'affirmer. Et dans les milieux ecclésiastiques, commence à s'imposer l'idée que personne ne peut être canonisé sans faire appel au pape, surtout s'il s'agit d'un personnage mort depuis peu. Et la sainteté va se définir encore, presque exclusivement, par le pouvoir thaumaturgique et sa principale manifestation étant la guérison. Alors, il est intéressant de constater qu'à Chartres, à cette époque-là, donc on est au début du 11e et jusqu'au 12e siècle, eh bien des personnages bien connus comme Fulbert, dont pourtant les disciples ont vanté les qualités et les vertus, le célèbre canoniste Yves de Chartres et le réformateur Bernard de Tiron sont complètement oubliés. Ils ne deviendront saints, on le verra, que beaucoup plus tard.
Nous vous proposons, chers auditeurs, une petite pause musicale avant de reprendre la suite de cette émission en écoutant la chanson de printemps de Félix Mendelssohn. Après cette pause musicale, puisqu'on a parlé de la translation épiscopale, est-ce qu'on peut maintenant parler de la canonisation pontificale ?
Oui, alors un tournant décisif s'opère avec Innocent III qui va instaurer la réserve pontificale. Il revient maintenant au pape d'autoriser le culte public d'un saint. Le concile de Latran interdit la vénération des reliques sans l'approbation pontificale. Alors, qu'est-ce qu'on voit à cette période-là ? C'est que la canonisation pontificale est entrée en concurrence avec la translation épiscopale et elle finit par la surclasser en 1234. Parallèlement, on voit aussi la renaissance du droit romain qui est encouragée par le pape et qui va aider à la mise en place du procès de canonisation. L'enquête va se préciser, s'allonger et la canonisation devient vite l'aboutissement d'un procès en bonne et due forme. C'est le début du procès en canonisation qu'on connaît. Toujours à cette même période, la vitalité urbaine des ordres mendiants et de leurs prédicateurs vont souligner que l'excellence du saint réside d'abord dans sa vie plutôt que dans ses miracles. Et ils vont dire aussi qu'il n'est pas nécessaire de se retirer du monde pour faire son salut. Donc on voit ce renouveau spirituel qui va conduire à la promotion nouvelle des laïcs et des femmes même particulièrement qui commencent à accéder à la gloire des autels.
Notre émission avance malheureusement. Marie-Francine Jourdan, que se passe-t-il après les grands chambardements de la Révolution et où en sommes-nous en ce début du XXIe siècle?
Alors, après la Révolution, l'Église de France va se reconstruire et le calendrier liturgique va s'ouvrir à de nouveaux martyrs et les martyrs de la Révolution. Mais il n'empêche que l'Église de France renoue aussi avec ses racines et par-delà la tourmente révolutionnaire. Et dans le diocèse, c'est à cette période-là qu'on va voir l'évêque de Chartres, Fulbert, Bernard de Tiron, qui vont enfin accéder à l'autel. Maintenant, il faut bien remarquer un dernier tournant, c'est le tournant du XXIe siècle. Avec Jean-Paul II, dit le pape de la Toussaint, il va médiatiser un certain nombre de saints et il présente l'image d'une sainteté qui se veut planétaire. Ce choix traduit la volonté d'inculturation du christianisme dans une culture différente. C'est à ce moment-là que François de Laval est béatifié, puisque les missionnaires du Nouveau Monde ne sont pas oubliés. Avec François, s'amorce une nouvelle voie. Il va utiliser la canonisation équipollente et elle lui permet de sa propre autorité d'étendre à l'Église universelle l'office, la célébration de la messe pour un nouveau saint. Et si bienheureux en ont bénéficié en quelques mois, dont François de Laval, qu'on connaît bien, en 1214, et sans qu'il y ait eu reconnaissance canonique d'un miracle. Elle montre une décision pontificale replacée au centre des débats, qui sont raccourcis, simplifiés. Le miracle, qui était un des piliers millénaires de la sainteté, n'est plus le seul discriminant maintenant.
Merci Marie-Francine Jourdan de votre analyse intéressante que nous pourrons toujours compléter en consultant votre ouvrage dont je rappelle le titre « De pierre et de verre, les saints du pays chartrain ». Amis auditeurs, si vous voulez réécouter cette émission, elle sera disponible à compter de la semaine prochaine sur le site Radio Grand Ciel et très rapidement sur le site de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. À bientôt, nous nous retrouvons dans un mois. Merci de votre fidélité. Au revoir.